Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Une découverte macabre sur les côtes du centre-est de la Tunisie. Les corps de 24 candidats à l'exil morts noyés après le naufrage de leur embarcation ont été retrouvés. Des violences ce jeudi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Depuis la mi-avril, les heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont fait près de 300 blessés, en grande majorité des Palestiniens. La répression des manifestations au Soudan, l'ONG Human Rights Watch dénonce le ciblage impitoyable et brutal des manifestants. Nous écouterons Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud de l'Irak, bilan d'affrontements armés entre membres d'une même tribu. La guerre en Ukraine, Moscou affirme que son armée a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad. L'autre, 8 mai 1945, cela fera dimanche 67 ans, les massacres de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie. Nous y reviendrons avec le président de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki. Des heurts ont eu lieu ce jeudi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Des violences entre des policiers israéliens et des palestiniens. Au cours des dernières semaines, de violents heurts ont fait près de 300 blessés palestiniens dans et autour de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Une découverte macabre sur les côtes du centre-est de la Tunisie. Les corps de 24 candidats à l'exil morts noyés après le naufrage de leur embarcation ont été retrouvés. Les naufrages remontent à la fin du mois d'avril. Du 22 au 30 avril, 4 embarcations parties des côtes de la région de Sfax sont chavirées au large de cette ville. Près de 2000 migrants ont été portés disparus ou sont morts noyés en Méditerranée l'année dernière, contre 1401 en 2020. Des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. La répression de la contestation au Soudan. Contestation contre le coup d'État mené par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan en octobre dernier. L'ONU a recensé un millier d'arrestations, dont 148 enfants, ainsi qu'au moins 13 viols de manifestantes. Une répression vivement condamnée, notamment par l'ONG Human Rights Watch, qui dénonce le ciblage impitoyable et brutal des manifestants. Entretien avec Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique.
Notre nouveau rapport documente comment les forces de sécurité entreprennent une campagne de répression à travers des arrestations arbitraires, des appréhensions très violentes de manifestants, notamment des individus qui sont perçus comme étant des manifestants très actifs dans le mouvement populaire. Et ce qu'on documente dans ce rapport, c'est qu'au cours des derniers mois, on a non seulement des arrestations où les manifestants se font maltraiter lors de l'arrestation. On a aussi documenté des cas de menaces de violences sexuelles, mais aussi de cas de violences sexuelles lors des arrestations, mais aussi des arrestations et des détentions qui sont arbitraires. Alors, il y a eu beaucoup de manifestants qui sont détenus de façon incommunicado, où ni leur famille, ni leurs avocats ont accès aux individus lors de leur détention. Et on a documenté comme deux agents des forces de sécurité en particulier, alors au niveau de la police et aussi au niveau d'un vieux service d'intelligence, en fait, qui avait perdu leur pouvoir d'arrestation lors de la transition, qui ont repris ce pouvoir d'arrestation qui leur a été retourné par les militaires depuis le coup, sont aussi en train d'utiliser, en fait, les prisons pour détenir les manifestants aussi. Donc, non seulement des violences physiques par les forces de sécurité, mais aussi des abus d'arrestation arbitraire, etc., et questions de procès équitable.
Et c'est pourquoi vous parlez de ciblage impitoyable et brutal des manifestants, les manifestants qui sont traqués aujourd'hui au Soudan.
Oui, je pense qu'il est important. Alors, on a depuis le coup d'État documenté toute forme d'instruments que les services de sécurité utilisent pour semer la peur dans le mouvement. Alors ici, ce rapport nouveau se focalise sur les arrestations arbitraires. On a déjà documenté l'utilisage de la force létale contre les manifestations. Il y a eu beaucoup de manifestants qui ont été tués, notamment les enfants. Je pense qu'il est important aussi de souligner ce qu'on trouve dans notre rapport aussi, c'est que les enfants n'ont pas été protégés. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui manifestent aussi. Et on a aussi documenté des cas d'arrestations violentes, d'enfants qui ont été abusés sexuellement aussi lors de leur détention. Donc on parle vraiment d'une répression qui n'a aucune restreinte.
148 enfants qui ont été arrêtés selon un dernier bilan.
C'est l'information et de l'ONU, mais aussi il y a des comités d'avocats qui travaillent très dur depuis le coup d'État pour essayer de suivre les cas justement des manifestants qui sont détenus, qui passent beaucoup de temps d'aller à un centre de détention à un autre, d'une autorité qui en théorie devrait avoir des informations sur où les individus sont détenus et qui les repousse et leur donne pas l'information appropriée. Et une des préoccupations qu'on a, c'est que les forces de sécurité utilisent l'état d'urgence qui a été établi suite au coup d'État par le dirigeant militaire, général Burhan, pour excuser, pour justifier le manque de procédures légales au cours de ces détentions.
Et vous appelez aujourd'hui la communauté internationale à faire davantage pression sur le pouvoir soudanais.
Absolument. On parle quand même d'une répression qui dure depuis 6 mois. Il y a eu, bien sûr, de la part de la communauté internationale, des communiqués de préoccupation et des actions importantes. Mais on n'a encore pas vraiment vu la pression qui sera essentielle, non seulement pour arrêter les abus, pour changer le comportement des services de sécurité. Et bien sûr, cette pression doit être mise au plus haut niveau. Notre nouveau rapport parle de certains agents et certaines unités des forces de sécurité qui sont impliquées en particulier dans ces abus-là. Mais on parle d'une campagne de répression qui est orchestrée au plus haut niveau. Donc il est absolument essentiel que des mesures significatives soient prises à ce niveau-là aussi. Et bien sûr, on parle aussi d'un soutien qui doit permettre aux mouvements populaires, aux voix qui refusent d'accepter le coup d'État, qui refusent d'accepter le pouvoir de plus en plus grand du pouvoir militaire. Je pense que c'est aussi important. Le plus de temps que cette situation dure, le plus de temps le pouvoir militaire a pour aussi remettre en place un système de contrôle à tous les niveaux de gouvernance importants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps pour permettre cette répression qui continue, il n'y a plus de temps de permettre un status quo qui est très préoccupant pour le futur du pays.
Parce qu'il y a une impunité aujourd'hui, selon vous, de la part des autorités militaires?
Absolument. On a, avant le coup d'État, on regardait déjà ce qui s'était passé sur tout ce qui est question d'enquête pour les abus du passé des forces de sécurité, notamment la répression qui avait déjà eu lieu en 2019 à la fin du régime d'Al-Bashir. On n'a pas vraiment vu des enquêtes très significatives. Il y a eu quelques cas, mais on parle quand même d'un contexte où les forces de sécurité ont toujours et continue de profiter d'un contexte d'impunité qui leur permet aussi de continuer cette répression. Et c'est pour ça que la pression internationale est importante. C'est pour ça que nous, on demande pour des mesures immédiates, telles des sanctions ciblées contre les individus qui dirigent cette répression, qui ne doivent pas être perçues comme des mesures qui remplacent la justice qui doit avoir lieu, mais c'est quand même des mesures dans un contexte où on sait qu'au niveau domestique, on ne va pas avoir de justice crédible dans le contexte actuel. Il est important que la communauté internationale prenne quand même des mesures intermédiaires qui donnent un message important que l'impunité n'est pas acceptable.
Et ces sanctions ciblées, comment cela pourrait se traduire? Quel type de sanctions? Cela peut être notamment des sanctions financières?
Oui, absolument. Par rapport aux visas qui sont donnés, c'est aussi important, je pense, diplomatiquement, que la communauté internationale n'accepte pas de continuer à s'engager avec le pouvoir militaire d'une façon qui serait tout à fait normale. Et c'est pour ça aussi que ces sanctions ciblées sur le côté financier des individus derrière la répression, mais aussi sur leur capacité de continuer à être perçus comme des acteurs politiques légitimes sont très importants.
Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud de l'Irak, bilan d'affrontements armés entre membres d'une même tribu, des affrontements provoqués par un contentieux autour de terres agricoles. L'ONG Amnesty International accuse une milice financée par le gouvernement en Libye de commettre des crimes et de graves violations des droits humains en toute impunité. Une milice dénommée Autorité de soutien à la stabilité, elle a été créée par décret gouvernemental en janvier 2021 et elle est dirigée par l'un des chefs les plus puissants de la capitale, Tripoli. La guerre en Ukraine, Moscou affirme que son armée a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad. Cette annonce est intervenue ce mercredi au 70e jour de l'agression russe en Ukraine qui a fait des milliers de morts et provoqué la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent. Une annonce d'Emmanuel Macron ce jeudi dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. Alors que l'on va commémorer la victoire contre le nazisme dimanche 8 mai prochain, l'association mémorielle Les Oranges rappelle que cette date est aussi l'anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie. Le président de l'association Mohamed Kaki évoquera cet autre 8 mai au Centre culturel algérien. Ce sera mercredi 11 mai à 19h. Mohamed Kaki.
Il faut rappeler que les tirailleurs algériens ont participé activement contre le nazisme et ont été combattre aux côtés de l'armée française, justement au front le Monte Cassino, et je rappelle tous les fronts importants où il y a eu des pertes énormes dans les troupes, et ils ont été très courageux et salués d'ailleurs par leurs camarades français à l'époque au front. Et dans le même temps, il y a eu effectivement à la fin, le 8 mai justement, pendant que tout le monde célébrait ce 8 mai 1945, la victoire, la véritable victoire contre le nazisme, enfin la liberté, eh bien, il y a eu une manifestation en Algérie, justement à Sétif, Guelma et Kerata, une manifestation pour dire eh bien nous avons participé à cette à ce combat contre le nazisme, alors il est un peu normal que nous ayons plus de liberté, voire l'indépendance de l'Algérie. Il faut rappeler que dans le même contexte, il y avait aussi les drapeaux algériens étaient interdits dans toute l'Algérie. Or, ce 8 mai, justement, les drapeaux ont fleuri, les drapeaux algériens ont fleuri aux côtés des drapeaux français partout en Algérie, dans plein de villes, et notamment dans la ville de Constantine. Et donc il y a cette manifestation pacifique qui va à Sétif, à la mairie de Sétif, et il y a un jeune scout, donc il y avait des scouts algériens qui s'appelle Bouzid Sahal. Et ce jeune scout va brandir un drapeau algérien, qui était effectivement interdit, dans la manifestation. Il sera tué immédiatement par un gendarme. Et donc, à partir de ce moment-là, je dirais, il y a une émeute, évidemment, puisqu'il y a une grande émotion. Et donc, la répression sera terrible, puisque il y aura les milices européennes appuyées par la gendarmerie, l'armée française, qui vont faire un terrible massacre où ils vont assassiner froidement les Algériens. Et pire que ça, ça va s'étaler, comme je le disais tout à l'heure, sur 5 mois. Et donc, il faut aussi rappeler un autre contexte important, c'est qu'il y avait quoi à l'époque ? Il y avait un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire que il y avait la droite et la gauche qui gouvernaient la France à l'époque, avec un ministre, il faut rappeler son nom, Charles Tillon, ministre de l'air, qui était communiste. Il y avait des socialistes, parmi le gouverneur d'ailleurs, était un gouverneur socialiste à l'époque là-bas. Donc, je dirais, c'est important de rappeler ce contexte-là, qui n'a rien à voir donc avec la droite et la gauche quand il s'agit de la répression du peuple algérien. Je dirais, tous les gouvernements et de toutes les sensibilités ont participé à ce massacre-là.
Le président de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient à 19h et 23h. Ici, on en parlait. Le thème de cette émission, les imaginaires, l'éternel retour. Les invités d'Alexis Bachelet, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et le politologue Stéphane Rosès. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité.